France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Le music hall, c'est 1000 décors, 1000 costumes et 1000 visages. Depuis ses origines, il a toujours dû innover et faire peau neuve pour conserver son public et le renouveler. Au gré des modes et des bouleversements sociaux, il a repris à son compte tous les genres et tous les styles, les a chantés sur tous les tons. Le music hall est un immense territoire dont on ne distingue pas toujours très bien les frontières qui n'ont jamais cessé de se déplacer. En 1997, dans l'émission Tour de chant, Martin Penet recevait le réalisateur et parolier Pierre Philippe qui enfilait son costume d'historien émérite du music hall pour en évoquer l'époque glorieuse du grand spectacle, celui des attractions et des revues féeriques. Du temps où Paris en était la capitale mondiale, Pierre Philippe nous en fait visiter les hauts lieux. Du concert Mayol à l'Empire, du Moulin Rouge au Palace et du Casino de Paris aux Folies Bergères. On y croise évidemment ces grandes figures, Gaby Delis, Miss Tinguette, Maurice Chevalier, Cécile Sorel, Joséphine Baker, Tino Rossi, Ray Dacquer, Mick Michel, Lynn Renault, Zizi Jeanmaire. Tour de chant, le musico La Grand Spectacle par Martin Penet.
Pierre-Philippe, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous êtes spécialiste du film d'archives, notamment de la chanson et du musical. Vous avez beaucoup fait de recherches dans ce domaine. Vous êtes auteur et réalisateur pour la télévision. On vous doit notamment le roman du musical, diffusé sur Arte il y a quelques années, et qui était un monument, je dirais, de collectage d'archives sur tous les spectacles depuis la fin du siècle dernier jusqu'à nos jours pratiquement.
Petit monument, petit.
Vous êtes aussi parolier de Jean Guitoni, de Juliette, voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Alors pour plonger tout de suite dans cet univers du music hall, je crois que le mieux c'est peut-être d'écouter un des plus grands succès du music hall, ça c'est Paris, par l'orchestre du Moulin Rouge, dirigé par Fred Mellé, c'était en 1926. Alors la vedette de Ça c'est Paris, c'était Miss Tinguette, bien sûr, à la fois directrice artistique du Moulin Rouge et directrice de l'atelier de costumes. Et donc là, on est en plein milieu de l'âge d'or du music hall à grand spectacle, Pierre-Philippe.
Eh oui, c'est vrai, c'est un genre qui prend sa source, ses racines dans la revue dès la fin du 19e siècle, on peut dire, puisque les structures sont déjà là, notamment aux Folies Bergères. Qui impose déjà cette formule un peu accélérée et extrêmement mélangée qui va devenir le symbole même de la revue à grand spectacle des années 20-30.
Qu'est-ce que c'est dans le fond une revue à grand spectacle?
Bah, c'est une espèce d'amplification des d'efflorescence de la revue elle-même, qui était la revue de chansonniers, on peut dire.
Satirique.
Oui, c'est ça. Il y avait énormément de petits théâtres à Paris et dans d'autres capitales qui présentaient ce type de spectacle. C'est un spectacle coupé avec des sketchs, des présentations des choses qui avaient trait à la mode, on peut dire, sur le plan ça avait une espèce de sens satirique de vision de l'actualité, aussi de revisitation de certains grands mythes historiques. Enfin, tout ça était en gestation dans la revue la revue de petite forme. Et puis c'était d'ailleurs le genre des Folies Bergères qui avait étant donné l'amplitude magnitude de la salle et de son importance, avait pimenté ça de toutes sortes de nouveautés qui allaient du cinématographe jusqu'à des combats de lutte qui étaient la spécialité de la maison, jusqu'à des attractions qui venaient du cirque, etc. Donc tout ça était en gestation comme ça à la fin du siècle dernier, au tout début d'une autre. Et puis ça maturait dans les années 10. Et ça, littéralement explosé bizarrement d'ailleurs, parce que les guerres sont toujours des choses très importantes pour la fermentation de ce genre de phénomène. Ça a explosé, on peut dire, vers 17, avec une revue qui est pratiquement historique en France, qui s'appelait Laisse-les tomber, et qui est non seulement la mise au point presque parfaite, pourrait-on dire, du genre, avec tout ce mélange, ce pot pourri, mais qui introduisait également, pour la première fois d'une manière très affirmée, le jazz.
Et il y a un grand escalier aussi qui montait jusqu'au cintre.
Bien entendu.
Alors la vedette de cette revue, c'était Gaby Delis, une Marseillaise qui avait déjà fait parler d'elle bien avant la guerre qui était une grande vedette à Londres et à New York. Et en 1908, au Moulin Rouge, elle chantait déjà une chanson. Et là, les documents sur sa voix sont extrêmement rares. Donc ça a été enregistré en 1908. Gaby Delis, la Parisienne.
On joue au golf ou au tennis, sur la glace on joue le hockey. On dit le surf pour dire les courses, un couturier c'est le dressmaker. D'ailleurs les gens qui vident notre bourse s'appellent tous à Boudrois Macaire. Pour une vraie parisienne, salon se dit driving room, un jardin se dit garden, un larvin s'appelle chrome, un cacao dit montagne, un veston se dit moquin. Quand on s'embarque, on dit féliacin, pour dire parfait, on dit figeux quentin, il faut qu'elle soit londonienne. La Parisienne.
Voilà la voix mythique de Gaby Delis qui a disparu prématurément en 1920, ce qui explique la rareté de ses enregistrements.
Oui, et d'ailleurs, il faut dire pour les auditeurs d'aujourd'hui que cette voix qui ressemble à celle d'une petite vieille émanait quand même, il faut penser évidemment aux difficultés de l'enregistrement sonore de l'époque, ça émanait d'une personne d'une beauté absolument foudroyante et d'une très grande jeunesse. Enfin, il faut.
Et sublime danseuse aussi.
Sublime danseuse, une femme tout à fait extraordinaire qui, effectivement, est morte très jeune et qui a endeuillé très vite le paysage du musical. Mais enfin, ça a permis à notre Miss Nationale de faire une émergence bien connue ensuite.
Alors, Gaby Delis donc fait l'inauguration du Casino de Paris. La réouverture du musical Casino de Paris, nouvelle formule en 1917. Et donc, on peut dire que c'est la première vraie grande meneuse.
Oui, exactement. Je pense qu'on peut le dire. Quoique, bien sûr, ce genre existait. C'était finalement la meneuse. C'est une espèce d'avatar aussi de ce qu'on appelait autrefois les commères. Qui étaient ces femmes qui étaient chargées, d'ailleurs avec un homme qu'on appelait compère, donc d'entraîner, de donner la pulsation de ces fameuses revues dont nous parlions à l'instant.
Pour faire le lien entre les tableaux.
Exactement, ouais. Le lien, et puis, établir une... Je crois le plus important que le lien, à mon avis, était la communication avec le public. Mmh. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui va faire, justement, la grandeur et la médiocrité de certaines meneuses de revue. C'est celles qui vont, nonobstant qu'elles aient du talent ou pas, peu importe, c'est celles qui sauront établir ce contact, cette fraternité avec la salle, cette chose absolument intime, presque tripale, qui a fait la renommée d'une Miss Tinguette, qui était une femme dont qui semblait s'adresser à chacun des spectateurs des salles où elle se produisait et qui avait qui remportait une adhésion immédiate. Enfin, c'est ce qu'on appelle le charisme.
Alors en 1924, elle fait une grande tournée aux États-Unis. Elle revient à Paris, je dirais, auréolée de gloire, et monte une revue qui s'appelle Bonjour Paris. Et elle chante en duo avec Saint-Granier, Ils n'ont pas ça.
Ils n'ont pas
vie, le fond de la rivière, ce qui n'est pas de chez nous.
Venez tous nous plaide, dès qu'elles sont anglaises, d'Amérique ou du Pérou.
Oui, je le possède, je l'avoue, j'en conviens, l'étranger possède des nations qui sont liens.
Mais sans nous flatter, s'il doit nous vanter, ils n'ont pourtant pas en vérité toutes les beautés de notre Paris.
Ni la Savard, ni les Garbis,
nos monuments presque immortels,
la tour Eiffel, ses sous-sorelles,
le bois de Boulogne et ses pelouses,
avec toutes ses gardens partout,
enfin notre pays et ses français,
le père Sylvain, le père Lachaise,
ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas, il faut le déclarer.
Monsieur Poincaré,
Madame Carré,
Monsieur Poiré, Madame.
Monsieur Domergue,
tous les vals de l'opéra,
Piotr Perrault, Rosina,
Picasso et Picabia,
et là, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça.
Enfin, qu'on se bêche, on se blague, n'empêche, rien n'est plus beau que chez nous.
Nul part on ne trouve, votre accueil le prouve, un public meilleur que vous.
On peut bien vous le dire, rien ne vaut, rien ne vaut, vos charmants sourires.
Ni tout vaut, tout bravo.
Jamais les Anglais, les Américains, n'auront entre nous, c'est bien certain. Ce voici, c'est bien parisien, qu'on va dans tout, qu'on va dans rien.
Le petit clin d'œil qui fait que si tôt, on se comprend à demi-mot.
Que je sais quoi, qui résulte tout et qu'on appelle, je vois le bout.
Le petit pincement, ce petit frisson qui fait qu'on vibre l'unisson. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas l'estimacité. Et d'inquiété, j'en m'en gâté. On dira tout ce qu'on voudra, on dira tout ce qu'on voudra, et là, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça.
Donc, Mistinguette et Saint-Granier, c'était au Casino de Paris en 1924. C'était le tableau d'entrée même de cette revue. Alors là, on est vraiment plongé dans l'âge d'or du musical. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette chanson, il y a encore la tradition satirique.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, en même temps, ce qui est fantastique, quand on écoute ces couplets, on s'aperçoit d'une chose presque inimaginable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on cite en 24, dans des couplets d'entrée, on cite des gens aussi marginaux, on peut dire à l'époque, en 24, que Picasso et Picabia. Alors c'est passionnant parce que d'abord ça voudrait peut-être dire qu'on ne se rend pas bien compte aujourd'hui de l'importance populaire qu'avaient ces peintres à l'époque. Et ensuite, surtout, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que ça induit l'idée, qui n'est pas fausse, alors celle-là, que la revue à grand spectacle est un vrai creuset où se mêlent des choses extrêmement vulgaires, on peut dire, des choses ras du pavé, ras des pâquerettes, qui sont du domaine du quotidien, etc., et qui sont même du domaine de l'inavouable, parfois, puisque c'est quand même aussi, il faut le rappeler d'une manière absolument forte, que c'est le domaine de la transgression de l'interdit, c'est le domaine du nu, c'est le domaine de la sexualité, etc. Et en même temps, il faut bien se rappeler que c'est un domaine où la création la plus avant-gardiste est autorisée. Et là, elle rencontre des choses qui sont du domaine de l'obsolète, du ridicule parfois. Etc. Et c'est tout à fait. C'est ça qui fait que probablement la revue à grand spectacle, la grande revue des années 20, est un genre qui, malgré ce qu'on ait pu en dire ensuite, est un genre unique. C'est-à-dire qu'elle mêle d'une manière absolument presque inimaginable tous les éléments les plus éloignés les uns des autres pour en faire une chose étrange et qui est difficile d'ailleurs à cerner. Il est difficile d'en parler. Qu'est-ce que ça représentait pour les gens de voir subitement un décor absolument cubiste ou même surréaliste au milieu de choses rococo, de viennoiseries, etc.
C'était le mélange des genres.
C'était un immense mélange.
Alors, il y avait aussi des vedettes internationales comme Jenny Golder, qui venait d'Australie et qui avait un accent assez délicieux, et oui. Qui était aussi une danseuse remarquable, notamment du Black Bottom en 1926. Et là, en 1926, elle était vedette du Palace.
Mais même si l'on aime tous ces pays, on n'arrive pas ici. C'est la vie de tout le monde. Depuis que la terre est ronde, tous les hommes de même avis ont répété toujours: Paris, Paris, l'endroit le plus charmant. Pour les femmes, pour les amants. Les nobles, les menons, les riches en auto, même pour ceux qui prennent le métro. Paris, Paris, dans le public français, je n'oublie pas déjà ma fête. Tous mes premiers conseils, pour tout ça qu'il te voit, ici à Paris, merci. I've got to go. Oh boy, I'm captivated. Why? I'll take the train at Waterloo. Getting there just after two. I'm going back to pack my grip. Oh, I'm feeling mighty blue. Paris, Paris, I love you, gay Paris. You make me feel that I don't care. Everywhere the beauty looks so tutti-frutti, makes you do things I do declare. Paris, Paris, just leave me in Paris and never let me roam away. You can keep New York and Baltimore, keep the roses round the door, give me Paris till the
La voix de Jenny Golder, un document aussi rare que précieux, puisqu'elle a très très peu enregistré. Mais
et oui, elle est morte très tôt, elle était victime elle aussi de ce syndrome morbide du musical, qui est une face intéressante, et dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de morts tragiques dans le musical. Et c'est intéressant d'entendre Jenny Golder aujourd'hui, parce que d'abord c'est 26 cet enregistrement, oui. C'est l'année où Joséphine Baker va débuter, elle aussi, après le triomphe de La Revue Nègre, l'année précédente, elle va débuter aux Folies Bergères. Et ça montre aussi l'acclimatation incroyable que permet le musical. C'est-à-dire que des gens qui n'auraient absolument pas leur place dans le spectacle français s'y coulent très naturellement et font d'immenses carrières.
Alors, Pierre-Philippe, je crois que maintenant on peut vraiment dire que le musical est une usine à plaisir. Je crois que ça paraît assez
c'est
clairement.
C'est une célèbre, c'est le titre d'un livre célèbre à l'époque, l'usine à plaisir, oui. C'est une usine, c'est une industrie, c'est énorme. Ça fait travailler énormément de gens, ça fait travailler énormément non seulement d'artistes, mais d'artisans de toutes sortes, bien entendu. Ce sont des opéras, les revues, ce sont des opéras comme les opéras du XVIIe siècle. Ce sont des machineries énormes. C'est une abondance de costumes qui eux-mêmes accumulent toutes sortes d'éléments qui eux-mêmes sortent de centaines de petits ateliers parisiens C'est ce moment merveilleux où, les petites mains dans le quartier de Saint-Denis fabriquent des plumes, fabriquent des ornements de toutes sortes, des rubans, cousent des paillettes par milliards, des fleurs. Ils font des fleurs artificielles par milliards aussi. Enfin, c'est une espèce de... C'est une entreprise qui va s'amplifier, s'accélérer, se démoniser pratiquement, puisque la fin prévisible au fond de la grande revue, cette espèce d'accumulation qui n'aura plus que cette fonction pratiquement. Ce sera les dernières grandes revues, ce seront des accumulations d'argent et de travail manuel transformé en vision d'art.
Alors Léon Volterra, qui était le directeur du Casino de Paris dans les années 20, disait, enfin sa formule c'était toujours plus beau, toujours du nouveau.
Oui,
mais à force de cette escalade, ben évidemment on a fini par atteindre un sommet.
Et oui, d'autant que le toujours plus beau peut-être, mais toujours du nouveau, ça c'était beaucoup plus difficile, parce que évidemment le nouveau c'est quoi? La nouveauté c'est vieux comme le monde, comme disait Prévert. Et puis je crois que le musical est mort finalement justement de son incapacité à se renouveler, parce que c'était très fort au départ, et ensuite ça s'est amoindri.
Et puis en 1929, il y a l'arrivée du cinéma parlant et une vedette de musical des années 20 qui s'appelait Jeanne Marnac tourne un film, ça s'appelle Paris Béguin, qui aujourd'hui est un superbe document sur le musical, un des rares d'ailleurs qui existe. Et dans ce film, bien sûr, elle chantait. C'est le début des années 30, il y a de moins en moins de salles de musical parce que toutes se transforment en cinéma.
Évidemment, bien sûr, les petits musicals qui étaient florissants à Paris et qui donnaient eux aussi des revues ferment effectivement les uns après les autres. Le cinéma sonore prend la première place.
Alors donc on a une crise du musical et donc forcément beaucoup plus de concurrence entre les vedettes pour essayer de décrocher haut de l'affiche du peu de place qui
est
restée.
Oui, et de toute façon il y a un va-et-vient tout à fait remarquable entre le vedettariat du cinéma et le vedettariat du musical, puisque les chanteuses, les actrices passent de l'un à l'autre et d'une manière tout à fait remarquable. Sauf Miss Tinguette qui d'ailleurs, pour des raisons, je crois, de photogénie, ne fera pas une carrière dans le cinéma sonore. Mais autrement, on voit effectivement des femmes comme Florelle, par exemple, qui est une grande vedette de musical au tout début du sonore, revenir, puisqu'elle y a fait ses débuts, revenir au musical.
Et est-ce qu'on peut parler un peu peut-être des autres vedettes encore qui restaient dans les années 30? Parce que tout à l'heure, on a évoqué Joséphine Baker, bon, qui donc a fait ses grands succès au Folies Bergère en 26, mais après, elle a fait une grande tournée dans le monde et elle est revenue seulement en 30.
Oui, c'est juste. Oui. Non, mais Joséphine, elle s'implante partout où elle passe. Elle crée une espèce de trace terrifiante. Enfin, là où elle passe, l'herbe des autres vedettes ne repousse plus. Évidemment, elle est un phénomène tout à fait extraordinaire. Et puis, non, si on peut, si il y a des tas de femmes qui essaient de monter jusqu'en haut de ce fameux escalier qu'elles vont descendre, mais c'est très très difficile, il faut dire, parce que ça demande toutes ces qualités dont je parlais tout à l'heure.
Alors là, petit document, la présentation de l'entrée de Florel aux Folies Bergères en 1933, suivie bien sûr du grand grand succès de Joséphine.
Mais alors, ce personnage de la vedette qui descend cet escalier couverte de bijoux Burma, de plumes, de fleurs, etc., de dentelles de toutes sortes, traînant des kilomètres de traîne soutenue par des boys, des girls, etc., est devenu tellement important, est devenu tellement emblématique de la revue que, évidemment, il faut en susciter aussi. Il faut essayer à toute force, puisque elle est, on l'attend, c'est presque la fin en soi de la revue. C'est d'ailleurs aussi l'origine de la fin de la revue, parce que à quoi bon exhiber une femme comme ça, en long, en large, en travers, et en plus une femme qui ne fait pas grand chose, parce qu'elle n'a pas vraiment le temps, elle chantouille une petite chanson par-ci par-là, elle fait un petit sketch, etc., et surtout elle présente des costumes. Et Miss Tinguette, évidemment, qui est l'immense triomphatrice de ça, se voit opposer presque chaque année une sérieuse concurrente. Évidemment, ça a d'abord été l'apparition de la noire et féline Becker qui est devenue on peut dire vraiment sa bête noire, et ensuite en 33 Henri Varnat a l'idée absolument diabolique d'aller dénicher la Comédie Française cette vieille gloire des planches qui est Cécile Sorel, et d'en faire l'espace d'une saison la grande vedette de son musical.
Alors, on regarde deux documents, Miss Tinguette aux Folies Bergères, Cécile Sorel au Casino de Paris, au même moment,
exactement au même moment,
deux extraits de sketch.
Une cocodette se présente comme ça dans le grand monde avec autant de facilité.
C'est ça votre grand monde? Eh bien, je ne vous en fais pas mes compliments.
Et les Tuileries, mettez-la, qu'est-ce
que
vous en
dites? Oh, c'est une merveille. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme note de gaz à la fin du mois avec toutes ces bougies? Dites-moi, est-ce que vous croyez que ce n'est pas le moment de me présenter aux messieurs et aux dames?
Mais avec plaisir, voyons. Voici son Excellence, l'ambassadeur d'Autriche.
Ich liebe dich. Gebadzimir est la grosse couche. Ça y est, il est très content, un autre,
et
un autre.
Entschuldige, bitte.
Un autre.
Et voilà, attention, il est très susceptible, l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Sir Arthur Archibald.
Yes.
May I introduce Miss...
Mettez-la. Dites-moi, sir.
Sir Arthur.
Ma sœur.
Non.
I am very happy to speak with a great ambassador like you. I love London. I love the flotte anglaise.
Yes.
I love the Queen. My carriage préférée is the Victoria.
Yes. What a funny girl.
Qu'est-ce qu'il dit que j'ai une sale gueule?
Madame, uniquement. Mais pour venir à nous aussi royalement parmi le bruissement des velours et des failles, arrivez-vous du ciel?
Non, monsieur, de Versailles, où les degrés de marbre ont tant de majesté que lorsque l'on descend, on a l'air de monter. Et maintenant, dansons!
À de nouveaux succès, nous allons retourner au Théâtre Français. N'avez-vous pas là-bas de commission à faire?
Saluez de ma part le buste de Molière.
Voilà, alors c'était successivement Miss Tinguette, Aux Folies Bergères, 58 ans, et Cécile Sorel au Casino de Paris, 60 ans.
Oui, c'était évidemment un match au sommet, et on peut dire presque à la maison de retraite. Enfin, c'était d'ailleurs évidemment, vous imaginez, le du gâteau, comme on dit, pour les satiristes de l'époque. Mais en même temps, c'est passionnant de voir comme Paris pouvait se passionner pour le match supposé, parce qu'au fond, elles étaient les meilleures amies du monde, entre deux femmes qui auraient dû effectivement commencer à rentrer chez elles. Mais bon, la chirurgie esthétique commençait à faire des miracles et des merveilles à l'époque. Hein.
Pierre-Philippe, que devient le musical au fil des ans?
Alors, bien sûr, que voulez-vous, cette époque de faste qu'on peut comme ça caser entre 25 et 35, on peut dire que c'est les grandes années où les vrais grands créateurs viennent au musical, les grands affichistes, les grands costumiers. Il faut pas oublier que le musical, c'est quand même le domaine de gens comme Paul Collin, comme Erté, qu'on y a vu des ballets expressionnistes allemands comme les ballets de Curtius, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un extraordinaire creuset. Eh bien, évidemment, comme toutes ces créations magnifiques et florissantes, va connaître jusqu'en disons 50, mais beaucoup plus tôt finalement. Une sorte de lente décadence. Et on peut dire que l'occupation allemande va sonner le glas de la grande revue. C'est tout à fait évident. D'abord, les revues vont être de moins en moins luxueuses, évidemment. C'est tout ce matériau dont elle est faite vont devenir rares, difficiles et chères. Donc, les revues seront de plus en plus maigrichonnes.
Alors, il y a quand même eu quelques tentatives de résurrection de ce genre dans les années 50, 60 et encore 70 avec plusieurs vedettes. Et là, on va entendre successivement un petit montage. Mick Michel, Zizi Jeanmer et Lynn Renault.
Allez, vas-y, c'est du bonheur. Allez, vas-y, avec ton cœur. Allez, vas-y, sans hésiter, et bonne chance. Voilà ce que m'a dit Varna, c'est pourquoi ce soir je suis là. Et c'est terrible et merveilleux de voir vos yeux. Allez, vas-y, c'est du bonheur. Allez, vas-y, avec ton cœur. Allez, vas-y, sans hésiter, et bonne chance. Mais quand je pense à tous les noms qui ont avec ou sans néon brillé sur la grande façade, j'en suis malade.
Enfin, cette fois, c'est bien vrai, je suis là. C'est comme dans un rêve et j'ai le cœur qui bat. J'ai fait tant de tours pour arriver ici et tant de détours, j'en suis tout ébloui. C'est bon de savoir que l'on est éveillé. C'est bon de savoir que l'on n'a pas rêvé. J'ai tant attendu que vienne enfin ce jour, car j'avais ici un rendez-vous d'amour.
Bonsoir, Lynn, quelle joie, nous sommes tous avec toi.
Assis et Blanche la revue. Tes amis sont venus pour te dire bonsoir, il est bienvenu. Paris Lille, oui c'est toi, Paris Lille, te voilà, Paris Lille, c'est ça là.
Voilà, donc successivement Mick Michel, Zizi Jean-Mère, Éline Renaud qui ont été, on peut dire, les dernières grandes meneuses qui ont du moins essayé de faire perdurer le genre. On pourrait quand même peut-être dire un mot aussi de Sylvie Vartan et de Dalida qui, au Palais des Congrès et ailleurs, ont fait des spectacles dans les années 70 qui tenaient un peu du musical.
Oui, oui, mais il est vrai qu'il y a une vraie... Ce genre est mort, enterré, on n'en parlera plus, mais enfin, essayons d'en parler un peu quand même. Mais il y a une véritable nostalgie chez les gens les plus jeunes aujourd'hui de recréer ces mythes, ce genre, cette folie. Et en ce sens, la revue à grand spectacle a laissé de belles traces.
Eh bien, Pierre-Philippe, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Georges Terret, l'administrateur des Folies Bergères.
Aujourd'hui, beaucoup des nostalgiques de la revue sont des gens que je ne voyais jamais aux Folies Bergères du temps où il y avait des revues. Ce sont des gens qui, au moment où il y avait des revues, percevaient ça comme totalement rétrograde, comme totalement cheap, comme moche, comme pas du tout digne d'intérêt. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus de revues, il y a une nostalgie de quelque chose qu'ils n'ont pas connu. C'est une nostalgie d'une chose qui est comme ça, une idée du passé. Ce qu'on appelle une revue, en fait, il faudrait le définir. Et en disant revue à grand spectacle, on fait presque un pléonasme. Parce que, est-ce que le grand spectacle a un avenir? Oui, c'est certain. Est-ce que le grand spectacle doit obligatoirement respecter des schémas qui sont nés dans les années 10, 20, 30? Je n'en suis pas aussi certain. Et dans ce cas-là, je pense même qu'il n'a pas d'avenir. Parlons d'une chose que je connais bien, c'est les Folies Bergères. Si on considère à peu près les 130 ans, de passé de la maison, on peut s'apercevoir que ce qu'on appelle aujourd'hui la revue à grand spectacle et ce qui est devenu un peu l'archétype de la revue à grand spectacle, dans ces 130 ans, il ne représente que 40 ans. Ce qui veut dire que c'est un moment de l'histoire du grand spectacle qui est aujourd'hui résumé et appliqué à toute l'histoire du spectacle. En clair, la revue Petite Femme, Plume, Paillette qui présente Marie-Antoinette au milieu de ses moutons ou les porcelaines de Meissen ou le prince Inca enlevant une gentille princesse. Ça, c'est un épiphénomène dans l'histoire du grand spectacle de revue. Je crois justement que le grand spectacle de revue doit évoluer et est condamné à évoluer. En 1869, quand les Folies Bergères ont ouvert, la première revue du genre s'appelait Place aux Jeunes. Et jusqu'en 1910-1920, c'était du grand spectacle avec des grandes attractions. À partir des années 15-20, on voit l'apparition des premières girls parce que c'est dans l'esprit du moment, parce que ça plaît au public du moment. Et des années 15-20 jusqu'aux années 40, c'est-à-dire très peu de temps, 35 ans, 40 ans au maximum, on exploite la veine girls, petite femme nue, plume et paillettes. À ce moment, il faut bien aussi considérer que socialement, le contexte est totalement différent. L'apogée du genre se situe avant 1936, avant les congés payés, avant les grandes lois sur le travail. Ce qui coûtait peu cher, c'était la main-d'œuvre. Ce qui coûtait très cher, c'était la matière première. C'est pour ça qu'on faisait des spectacles avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. À partir des années 50, la proportion se renverse. Et on commence à vouloir continuer à masquer le manque de talent des créateurs ou la carence du talent des créateurs par une profusion de plumes, de paillettes, de monde sur la scène et par une sorte de poudre aux yeux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire le point et se dire le public a évolué. Si le spectacle de revue n'évolue pas, ben, il est condamné à mourir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire du grand spectacle qui séduise le public. Non plus en séduisant un public qui irait voir de la revue comme il irait au musée, mais qui irait voir du grand spectacle pour se divertir. Et il est évident qu'on ne divertit pas aujourd'hui le public en 1998 comme on le divertissait en 1925 ou en 1930. Il est clair qu'il faut aujourd'hui s'interroger sur une évolution du grand spectacle. Je pense que l'évolution du grand spectacle, elle est aujourd'hui dans la direction du spectacle musical, du spectacle familial, parce que ça c'est une donnée importante. Le spectacle de revue est un spectacle qu'on allait voir en famille. Et aujourd'hui, la comédie musicale, pour employer un terme qui ne plaît pas beaucoup aux Français, me paraît quand même dans la lignée de ces grands spectacles. La France doit être un des seuls pays où la comédie musicale est totalement délaissée et presque regardée avec un œil méfiant. Parce qu'il y a ce passé des revues et qu'on pense que la comédie musicale peut concurrencer les revues. Mais elle concurrence pas les revues, elle est tout à fait dans la mouvance, elle est tout à fait dans l'esprit, elle est tout à fait dans la lignée de ce que doit devenir le spectacle de divertissement. Prioritairement, je pense que le public aujourd'hui a besoin de se divertir. Alors, se divertir, ça, c'est pas obligatoirement aller voir des comiques. On se divertit en allant voir du grand spectacle sur une scène. Et il ne faut pas que le grand spectacle sur une scène tente de rivaliser avec les effets spéciaux qu'on peut voir aujourd'hui en vidéo, au cinéma. Je crois que c'est le travail, c'est d'abord le travail qui est fait en scène qui est important. Je crois que la comédie musicale, hein, quand on voit Femme, quand on voit Chorus Line, quand on voit les grandes comédies musicales mythiques, Grease, on s'aperçoit que ça fait rêver, et avec des musiques d'aujourd'hui, et avec des thèmes qui sont des thèmes qui intéressent le spectateur d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est encore une fois, d'être en prise directe avec le public. Le public a envie de sortir d'un spectacle en chantant des airs qu'il a retenus dans le spectacle.
Voilà, merci beaucoup Pierre-Philippe d'être venu nous parler, d'évoquer tout ce genre de la revue à grand spectacle.
Oui, merci
sur
aussi.
France Culture. Mmh.
Tour de chant, le musical à grand spectacle par Martin Péné, a été diffusé pour la première fois le 29 décembre 1997.